Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux. Les ornithologues sont habitués à ce que les oiseaux qu'on a vus passer au printemps reviennent à l'automne, mais cette fois-ci, il semblerait que ce soit encore une fois le fameux virus qui nous attendait à l'automne et qui nous frappe à nouveau. Bon, je sais, vous écoutez certainement pas cette balado-diffusion pour qu'on vous parle encore de ça. Et sortir dehors regarder les oiseaux est sans doute une excellente façon d'oublier que ça existe. Toutefois, permettez-moi de commencer par la partie qui me plaît le moins pour aujourd'hui. Comme ça, on met ça de côté et après on parlera d'oiseaux, je vous le promets. Peut-être que certains d'entre vous se demandent, avec toutes les règles qu'on apprend, qui changent à chaque journée, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas quand on est ornithologue amateur. Et on va s'enlever l'épine du pied, je vais vous lire les recommandations de Québec Oiseaux sur le sujet pour que vous puissiez vous y retrouver, que ce soit un petit peu plus clair. Évidemment, je ne suis pas là ici chez moi, en zone rouge par ailleurs, pour faire la police. On essaie simplement de vous aider à vous y retrouver dans les recommandations gouvernementales. Les gens qui sont en zone rouge ou en zone orange, on vous rappelle qu'il n'est pas recommandé, d'après les recommandations gouvernementales, il n'est pas recommandé de vous déplacer en direction ou en provenance de vos zones. Avec la migration d'automne qui est à un sommet en ce moment, certains lieux sont particulièrement tentants. Je sais qu'il y a des oies blanches qui passent dans certaines zones rouges, mais ça reste probablement un bon moment pour explorer votre région à vous et exploiter au maximum le potentiel ornithologique de votre petite zone orange ou rouge à vous. Pour ce qui est des petits rassemblements ou des sorties organisées, ils sont permis à l'extérieur en zone verte, en zone jaune ou même en zone orange. En zone rouge, vous devez pratiquer vos activités en pratique libre, seul ou en dyade à deux personnes. C'est un excellent moyen de renouer avec le côté un peu méditatif de l'ornithologie. Pour aujourd'hui, on vous a préparé un sujet qui touche peut-être un petit peu moins l'ornithologie de terrain, quoique le professeur à qui j'ai parlé a beaucoup travaillé à partir des observations que des ornithologues amateurs comme vous et moi ont consignées. J'ai rencontré chez lui donc Louis Lefebvre, professeur de biologie à l'Université McGill, qui étudie depuis des années l'intelligence chez les oiseaux. C'était une rencontre là, vraiment franchement passionnante, où il me parle de sa démarche, de sa recherche, et il nous aide un petit peu à comprendre ce qui rend les oiseaux intelligents ou pas. Je suis maintenant avec Louis Lefebvre. Louis Lefebvre, vous êtes professeur à l'Université McGill au département de biologie et vous étudiez l'intelligence chez les oiseaux. On est chez vous ici à Fredericksburg, donc un petit peu au nord de la frontière avec le Vermont. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue et merci beaucoup évidemment de nous accueillir chez vous.
Merci, ça me fait plaisir.
Alors, Monsieur Lefebvre, vous étudiez l'intelligence chez les oiseaux. Évidemment, le terme intelligence, pour le grand public, ça résonne, on sait ce que ça veut dire. Cela étant dit, quand on est d'un point de vue scientifique, c'est un terme probablement un petit peu difficile à définir. Lorsqu'on étudie l'intelligence chez les oiseaux, on étudie quoi exactement?
Il y a des gens qui ont différentes approches. Moi, mon approche personnellement, moi, j'ai un doctorat en psychologie. Donc, l'intelligence, c'est quelque chose que les psychologues ont étudié au niveau humain, évidemment, mais aussi au niveau de c'est quoi les opérations dans notre cerveau, c'est quoi les opérations dans notre cognition qui font qu'on est plus ou moins intelligent. C'est sûr qu'on n'a pas accès à ça chez des oiseaux. On ne peut pas leur donner des tests, ils ne peuvent pas nous parler, ils ne peuvent pas nous donner des réponses. Alors, ce que j'ai fait avec les années, c'est avoir deux approches complètement différentes, mais qui sont complémentaires. Une, ça a été d'essayer de regarder ce que tous les ornithologues et les observateurs d'oiseaux disent sur le terrain quand ils voient un oiseau faire quelque chose qui les émerveille. Ils n'en reviennent pas. « Wow, l'oiseau a fait ça, j'ai jamais vu ça chez cet oiseau-là. » Ça peut être quelque chose de très simple comme manger une nouvelle nourriture ou utiliser un outil. Qui, normalement, quand on voit un singe le faire, quand on voit un corbeau de Nouvelle-Calédonie le faire, on a tendance à appeler ça des comportements intelligents. L'autre approche, ça a été de leur donner des tests à la station de recherche de McGill à la Barbade sur un ensemble d'espèces qui sont relativement faciles. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est quand on considère quelqu'un d'intelligent, on considère que c'est quelqu'un qui est capable de trouver des solutions à des problèmes. Mm-hmm. Quelqu'un qui est capable de trouver des nouvelles solutions à des problèmes. Alors, quand on donne un test à un oiseau à la Barbade, on appelle ça un test de résolution de problèmes.
Okay.
Puis sur le terrain, quand je regarde ce que les ornithologues et les observateurs d'oiseaux trouvent fantastique chez un oiseau et étonnant, j'appelle ça des innovations. Donc, c'est okay. de la nouveauté. Générer de la nouveauté, résoudre un problème de façon nouvelle, ça coïncide avec ce que nous, on appellerait l'intelligence chez les humains, mais ça ne nécessite pas la conscience, ça ne nécessite pas le langage. Donc, ça met la barre suffisamment, je ne dirais pas basse, mais ça met la barre à une place où les oiseaux peuvent nous donner quelque chose. Parce que je ne sais pas c'est quoi, je ne veux pas insulter personne. Je me suis retrouvé avec des Australiens une fois et ils m'ont fait dire que l'émeu était l'oiseau le plus stupide sur la Terre.
Ah oui?
C'est leur oiseau national. Alors, l'important, c'est d'avoir une définition de l'intelligence qui est capable d'inclure un émeu. Donc, c'est ceux qui sont, ils demandent de fabriquer un outil comme un corbeau de Nouvelle-Calédonie. L'émeu, il ne fera pas. Mais l'émeu, de temps en temps, ça se peut qu'il mange une nouvelle nourriture. Ça se peut qu'il soit forcé, parce que sa nourriture habituelle n'est pas disponible, d'innover. Donc, même un émeu peut nous donner au moins une observation.
Ah bon, d'accord, quand même. Et puis, lorsque vous travaillez avec les oiseaux, j'ai lu un petit peu de vos articles, des fois vous les capturez, puis vous les soumettez à des espèces de tests en laboratoire, si on veut. Quel genre de tests vous leur faites passer, par exemple, à la Barbade, quand vous étudiez les oiseaux? Ça ressemble à quoi?
Dans l'histoire du concept d'innovation, puis même de transmission sociale, transmission culturelle chez les oiseaux, il y a un cas très célèbre que les ornithologues doivent tous connaître, les bouteilles de lait ouvertes par les mésanges en Angleterre. Donc, okay. en 1921, dans une petite ville qui s'appelait Swathling, dans le sud, il y a des gens qui ont commencé à voir que leur bouteille de lait était percée. À l'époque, c'était du lait qui n'était pas homogénéisé, puis c'était dans des bouteilles de verre avec une petite capsule sur le dessus qui était en aluminium ou en carton. Alors, les mésanges venaient boire la crème. Ils prenaient le gras de la crème sur le dessus. Okay. Et donc, ils ont commencé à mesurer ces genres de choses-là. Alors, pour accéder à de la crème, il faut que ta mésange vienne se percher et qu'elle arrache. Donc, il y a un enlèvement d'obstacles.
Okay.
Beaucoup des innovations qu'on a vues, c'est des enlèvements d'obstacles. Fait que le problème qu'on donne aux oiseaux à la Barbade, puis dans tous nos tests, c'est des enlèvements d'obstacles.
Donc, ça demande au moins la compréhension qu'il y a une récompense de l'autre côté de l'obstacle et la capacité de comprendre qu'on peut enlever l'obstacle.
C'est ça. T'as faim, tu vois de la nourriture en dessous de quelque chose, dans quelque chose, puis là, il faut que tu trouves la solution pour accéder à cette nourriture-là. Alors, il y a les gens qui testent, mettons, les perroquets, les coccacielles de Goffin, les corbeaux Nouvelle-Calédonie, quand on va tester, ou un KEA, mettons, en Nouvelle-Zélande, on va tester avec des outils. Et on va tester des combinaisons d'outils souvent très subtiles. Nous autres, on leur demande juste d'utiliser leur bec, mais c'est D'accord. la même chose, dans le fond. Que tu utilises un outil ou ton bec pour accéder à une nourriture cachée en enlèvement d'un obstacle, c'est le test le plus fréquemment utilisé pour l'intelligence des oiseaux.
Et puis, lorsque je voyais vos expériences ou en fait vos recherches, je vois que vous utilisez beaucoup le terme des innovations alimentaires, donc des façons nouvelles que les oiseaux ont pour s'alimenter. Pourquoi avoir choisi cet aspect spécifique? Parce que, par exemple, on a toujours la notion, par exemple, que les perroquets ou les corvidés, qui sont les oiseaux en tout cas souvent considérés les plus intelligents, on en reparlera peut-être plus tard, sont des oiseaux très sociaux. Donc, finalement, il y a un aspect social à l'intelligence. Pourquoi avoir choisi les innovations alimentaires?
Bien, d'abord, je voulais que, comme j'ai dit tout à l'heure, que la barre soit suffisamment basse pour que même un émeu nous donne quelque chose. Donc, moi, c'est ce que je voulais, c'était un chiffre. Alors, mettons, je viens de regarder ma base de données. J'ai 336 innovations chez les corvidés.
OK.
Et j'en ai zéro chez les émeus.
Ah oui?
Même s'il y a possibilité d'en avoir, parce qu'en Australie, il y a beaucoup d'ornithologues. Donc, s'il est pour se passer quelque chose, ils vont le voir. Donc, la question, c'est...
Puis c'est des oiseaux aussi qu'on remarque beaucoup.
C'est ça,
ils se cachent difficilement.
C'est ça. Alors, la question, c'est d'abord avoir une définition qui permet de mesurer tout le monde. Deuxièmement, avoir une définition qui permet de passer à travers toutes les revues d'ornithologie et les magazines sur les oiseaux, parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai passé à travers 217 revues différentes en 2 et 85 ans de publications. Donc, on en a fait beaucoup. Et ça me prend un critère qui dit, bien, je prends juste ceux-là. Parce que si j'ai un éventail trop vaste de définitions, à un moment donné, j'aurai des chiffres qui sont moins fiables. Mais si je prends juste une catégorie, puis je dis, c'est cette catégorie-là. Puis, évidemment, il faut pouvoir, après ça, dire, mais c'est quoi qui pourrait gonfler les chiffres pour une espèce ou c'est quoi qui pourrait cacher les chiffres pour une autre espèce? Bien, social, pas social, c'est une chose, mais c'est également... Après ça, on peut regarder le régime alimentaire. Il y a des très bonnes données sur tous les régimes alimentaires de tous les oiseaux, sur l'habitat de tous les oiseaux. Donc, on sait qui est un spécialiste alimentaire, qui est un généraliste alimentaire, qui est un spécialiste d'habitat, qui est un généraliste d'habitat. Et donc, à cause du fait que l'alimentation, c'est ce qu'il y a de presque de mieux connu, puis c'est la deuxième catégorie d'observation la plus fréquente. Quand un ornithologue ou un observateur d'oiseaux dit « Wow, j'ai vu ça », puis ça m'a beaucoup étonné, le plus souvent, c'est un oiseau qui est là puis qui n'a pas d'affaire là. Donc, c'est un oiseau rare ou c'est un oiseau, mon Dieu, c'est la première fois. Tu sais, c'est ça, on voit ça souvent. Première observation de telle espèce d'oiseau à telle place.
Et donc, c'est seulement la présence à ce moment-là ce qui nous renseigne quand même peu sur l'intelligence de l'oiseau.
Exactement. Donc, la deuxième plus fréquente, c'est « j'ai vu tel oiseau manger telle chose » manger, chercher sa nourriture de telle façon. Puis ça, j'avais jamais vu ça avant.
D'accord. Puis lorsque vous travaillez avec des oiseaux, donc en fait, quels oiseaux est-ce que vous étudiez au Québec? Avec quels oiseaux vous travaillez régulièrement?
Tout ce qui est publié dans les revues d'ornithologie nord-américaine où il y a des observations d'oiseaux québécois, j'ai note dans ma base de données d'innovation. Sinon, l'oiseau sur le terrain avec lequel j'ai le plus travaillé, c'est le pigeon urbain.
Ah oui? Pourquoi le pigeon? Simplement parce qu'il était disponible en grande quantité autour de l'Université McGill?
C'est pas loin de la bonne réponse, ça. En fait, moi, je suis formé en psychologie. Et il y a deux animaux que les psychologues étudient dans captivité, dans des boîtes de Skinner. Il y a le rat blanc et le pigeon qui picore sur un disque. Donc, on a des milliers et des milliers et des milliers d'articles en psychologie de l'apprentissage sur comment les pigeons sont capables de comprendre les contingences, les conditions, tout ça, les renforcements, les récompenses à l'intérieur d'une boîte de Skinner. Fait que la première chose que
une
boîte de Skinner, c'est un appareil qui demande à l'animal de faire quelque chose. Donc, pour un pigeon, c'est le plus souvent donner un coup de bec sur un disque. Pour un rat, c'est peser sur un levier.
OK.
OK, puis là, il y a une récompense ou pas. Puis il y a des milliers, des dizaines de milliers d'articles. Donc, au départ, moi, j'étais un psychologue. Donc, j'ai été formé en apprentissage, puis je ne suis pas très bon sur le terrain. Alors, je me dis, j'aimerais ça. Maintenant, je suis engagé en biologie, je vais faire l'écologie de la cognition, l'écologie de l'apprentissage. Fait que là, j'avais le choix entre aller étudier les rats dans les égouts ou étudier les pigeons dans les places urbaines. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, je pense que je vais prendre les pigeons. Deuxièmement, la première chose qui est évidente quand tu regardes un pigeon, c'est que le pigeon dans une boîte de Skinner, de psychologue, il est tout seul. Mais un pigeon, c'est presque jamais tout seul.
Oui, effectivement.
Donc, il y a sûrement quelque chose de social dans la façon. Fait que, disons que les premiers 10 ans de mon programme de recherche à McGill, ça a été pour essayer de comprendre comment la vie sociale du pigeon influençait sa façon d'apprendre socialement ou individuellement. Et c'était toujours des tests d'alimentation. Donc, on allait sur les places publiques à Montréal. On faisait du vidéo, on faisait des tests. On avait des volières à McGill avec des pigeons, des troupes de pigeons là-dedans.
Puis, au niveau de votre recherche, qu'est-ce que ça vous apporte, à part évidemment le soleil, d'aller travailler à la Barbade? Quels avantages ça a?
Bien, la Barbade, ça a l'avantage. Premièrement, McGill a une station de recherche là. Mais l'autre chose, c'est que c'est une île qui est à l'écart des autres îles des Antilles en termes et de courant marin et de courant de vent. Donc, c'est une île corallienne en plus. C'est pas une île. Toutes les autres îles sont des îles volcaniques. Mais ça, c'est une île corallienne qui est à l'est de toutes les îles volcaniques. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu d'animaux qui sont arrivés par hasard, poussés par le vent ou poussés par la mer. Okay. Donc, il y a très peu d'oiseaux. Deuxièmement, parce que c'est une île qui est corallienne, il n'y a pas beaucoup de différences d'altitude et de différences locales dans l'environnement. Si vous avez une île comme la Martinique, il y a une zone qui est volcanique et donc vous avez une forêt tropicale très dense, très humide en haut, puis vous avez des zones plus arides en bas. À la Barbade, c'est pas mal tout pareil partout. Et
ah oui,
c'est très habité et ça a été développé beaucoup à partir des années 1600 pour la canne à sucre et maintenant surtout pour le tourisme. Donc, finalement, vous avez un écosystème assez simple. Vous avez une avifaune très limitée. Mm-hmm. Vous avez énormément d'influence humaine et vous n'avez pas eu de prédateurs historiquement.
Okay.
Donc, les humains ont amené, comme partout ailleurs, des rats, des mangoustes, des chats, des singes verts d'Afrique. Mais avant, il n'y avait rien. Donc, les oiseaux sont très, très, très faciles à approcher. Ils n'ont pas de crainte de prédateurs. Deuxièmement, ils sont très opportunistes parce que, à cause du développement, il y a un contact avec les humains qui est très fréquent. Et il n'y a pas vraiment de zone où ils peuvent se cacher. Donc, les 20 espèces qui sont là en permanence, parce qu'il y en a qui passent en migration, mais les 25 espèces, donc c'est pas beaucoup ça pour un endroit tropical, 20 espèces.
Non, effectivement.
Les gens vont au Costa Rica, puis il y en a des centaines.
Oh oui.
Mais c'est plate. Pour un amateur d'oiseaux, la Barbade, c'est plate. Mais pour quelqu'un qui est intéressé par l'opportunisme, puis le changement du comportement, c'est idéal.
Donc maintenant, j'aimerais peut-être qu'on parle justement, là, on rentre dans le vif du sujet, de l'intelligence des oiseaux par rapport aux mammifères. Bon, parce qu'évidemment, on a les exemples qui nous viennent en tête le plus facilement quand on parle d'intelligence, c'est les mammifères, et à commencer par nous-mêmes. Est-ce que les oiseaux sont intelligents?
Quand on compare, mettons, nous avec les oiseaux, nous avec les pieuvres, nous avec les abeilles, en fait, la meilleure façon de comprendre l'évolution de l'intelligence, c'est de se rendre compte que quand on dit abeille, pieuvre, singe, corbeau de Nouvelle-Calédonie, même parmi les singes, il y a des capucins d'Amérique du Sud, il y a des chimpanzés. C'est toutes des évolutions indépendantes. L'intelligence a évolué plusieurs fois de façon indépendante dans plusieurs groupes d'animaux. Donc, il ne s'agit pas de comparer la pieuvre à l'humain, il s'agit de comparer la pieuvre au calmar. Il s'agit de comparer le corbeau de Nouvelle-Calédonie à l'émeu. Il s'agit de comprendre le lémur, de comparer le lémur au capucin et le chimpanzé, mettons, au singe vert ou au gibbon, mettons. Donc, c'est à l'intérieur des catégories qu'il faut les comparer. Et les oiseaux, en termes de densité de neurones dans le cerveau, et en particulier la partie du cerveau qui correspond à notre cortex préfrontal, qu'on appelle le pallium caudolatéral chez les oiseaux, NCL. Cette partie du cerveau-là a une densité de neurones chez les corbeaux, les corneilles et les perroquets qui est du même niveau que chez les singes, que chez les primates. Donc, une toute petite tête de corneille qui inclut un cerveau qui est très petit, inclut une densité de neurones qui est absolument phénoménale.
Puis, est-ce qu'on sait pourquoi l'intelligence est apparue chez les oiseaux? Parce que quand on regarde les oiseaux, le vol, en tout cas, ça constitue une adaptation évolutive formidable. Puis, on aurait pu penser, en tout cas, qu'à partir du moment où, de toute façon, ils savaient voler, cet avantage-là aurait pu leur suffire. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est apparu chez certains groupes?
Non seulement le vol est quelque chose qu'ils ont, puis que peu de mammifères ont, les chauves-souris, oui, mais à part ça.
Oui, puis les insectes n'ont pas développé une grande intelligence. Là,
quand ton bras est devenu une aile, ça veut dire qu'il n'y a pas de doigt. Il y a un doigt, il y a l'allula, là, mais tu ne peux pas faire grand-chose avec ça. Tu ne peux pas tenir un outil. Donc, le problème, c'est que tu es limité, tu as un bec, puis dans le cas des perroquets, tu as le bec et la patte qui peuvent travailler ensemble. Mm-hmm. Donc, déjà là, si tu définis, mettons, si une des sortes d'intelligence, mettons, qu'on peut utiliser pour comparer différentes espèces, c'est l'utilisation d'outils. Déjà, par rapport aux singes, pas de main, c'est un problème.
Ça rend la chose difficile.
C'est ça. Les perroquets ont l'avantage de pouvoir coordonner le bec avec la patte. Sauf que le bec d'un perroquet, c'est tellement, tellement fort et tellement dur que c'est capable d'ouvrir bien des choses que nous, pour lesquelles nous, on a besoin d'un outil. Donc, déjà là, c'est un problème. Alors, pourquoi il y a eu l'évolution, mettons, la capacité d'utiliser les outils chez les corbeaux de Nouvelle-Calédonie? On peut imaginer un scénario suivant. Parce qu'on a déjà quelques connaissances, non pas sur l'origine de l'utilisation d'outils. Puis en fait, les corbeaux de Nouvelle-Calédonie, vos lecteurs doivent le savoir, ils fabriquent des outils à partir de feuilles et à partir de tiges. Et donc ça, c'est assez exceptionnel. Les chimpanzés en fabriquent un petit peu, mais c'est vraiment très haut comme niveau d'intelligence. Alors, les pinsons de Darwin aux îles Galapagos, il y a des populations de pinsons de Darwin qui ont accès à de la nourriture presque toute l'année. Ils vivent dans des zones assez humides et ça leur suffit de chercher en dessous des feuilles pour trouver les invertébrés. Et ces populations-là n'utilisent pas les outils. Il y a des populations qui vivent dans des zones arides où, quand tu as la saison sèche, les insectes, il n'y en a plus en dessous des feuilles. Les insectes sont rendus dans les crevasses. Parce que la crevasse, elle a de l'humidité, puis ailleurs, il n'y en a pas. Alors, comment tu vas chercher l'insecte qui est dans la crevasse? Ça prend un outil.
J'utilise des brindilles, là, si je me souviens.
Prennent des brindilles, c'est ça. Alors, quand tu prends des jeunes qui sont de la partie humide des îles, puis tu les amènes en captivité, puis tu leur donnes un insecte dans une crevasse. Ils n'ont jamais utilisé d'outils, eux autres, parce que chez eux, il n'y en a pas besoin. Mais ils sont capables d'innover et d'utiliser l'outil. Donc, imagine une population où il y a eu tellement, tellement de sécheresse qu'il n'y a pas d'insectes disponibles, sauf ce qui est caché dans les crevasses. Aucun des individus qui ne sait pas utiliser les outils va survivre à cette sécheresse-là. Tous les individus qui vont survivre sont par définition des individus qui sont capables d'insérer une brindille dans un... Bon. Et on sait que quand il y a eu une série de sécheresses dans les années 80 aux îles Galapagos, les jeunes qui n'ont pas su changer leur façon de s'alimenter de la saison humide à la saison sèche sont tous morts. Ah oui. Tous ceux qui ont survécu, c'était des jeunes qui étaient suffisamment flexibles. Ça, c'est des jeunes qui étaient nés dans des années où il y a eu beaucoup de pluie. Donc, ils n'ont jamais eu besoin de trouver des façons de manger quand c'est sec. Tout à coup, il y a eu 2 années de sécheresse. Donc, vous avez eu une sélection naturelle à 100 % sur ceux qui sont capables d'être flexibles. Alors, on peut imaginer qu'un jour, c'est arrivé en Nouvelle-Calédonie, que si tu n'étais pas capable d'aller trouver les insectes dans une crevasse, t'étais mort.
Avec cette espèce d'outil là, qui se fabrique.
C'est ça. Fait que c'est, on ne sait pas comment ça arrive que certains individus sont capables d'innover avec un outil, mais on sait qu'il peut y avoir de la sélection. On a juste à imaginer qu'est-ce qui se passe dans une sécheresse. Où est-ce qu'il reste des insectes? C'est dans les crevasses.
Puis est-ce qu'il y a une corrélation chez les oiseaux entre une organisation sociale complexe puis l'intelligence? Parce qu'on a... l'impression, enfin, peut-être que je me trompe, là, mais que, bon, ici au Québec, les oiseaux intelligents, ça va être les corvidés, etc., qui se déplacent souvent en groupe. Puis est-ce qu'il y a une corrélation entre ces éléments-là ou pas vraiment?
L'hypothèse de l'intelligence sociale, c'est une hypothèse qui a été proposée sur les primates. Et une troupe de primates, la plupart du temps, les individus se connaissent tous. Ils connaissent la hiérarchie de dominance et ils connaissent les alliances. Donc, vous avez beaucoup d'informations sociales à intégrer si vous connaissez non seulement qui est qui, mais qui est supérieur à qui dans la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu ailles chercher une mangue avant cet individu-là, sinon tu vas te faire mordre.
Ah oui.
Deuxièmement, il y a des alliances entre individus chez les primates. Donc, tu sais qui est la fille de qui est l'allié de qui. Donc, il y a beaucoup d'informations à storer dans une troupe de singes. Regardez, mettons, vous avez 200 pigeons sur un square à Montréal. Est-ce que chaque pigeon connaît les 199 autres? Est-ce que chaque pigeon connaît la hiérarchie de dominance? Est-ce que, en fait, les pigeons connaissent probablement juste un individu, leur partenaire, leur conjoint ou leur conjointe, et les jeunes, en tout cas en laboratoire, les deux qui naissent dans une même couvée, se reconnaissent eux aussi, puis peuvent avoir une alliance. Donc, frère, sœur, conjoint, conjointe. Mais c'est à peu près tout. Fait que quand vous dites un groupe de pigeons ou une nuée d'étourneaux, une nuée d'étourneaux, c'est fantastique comment ils sont capables de coordonner leur vol.
Oui.
Mais ils sont 500, puis ils sont capables de ne pas se cogner quand ils volent. Mais de là à dire qu'ils se connaissent, c'est une autre histoire.
On ne peut pas vraiment supposer ça.
C'est ça. Donc, ils sont grégaires, mais dans le fond, la connaissance, l'information, le storage d'informations nécessaires dans des situations comme ça, s'il n'y en a pas tant que ça. Fait qu'en fait, les gens qui ont regardé l'effet social, ils se rendent compte que ça fonctionne pour des relativement petits groupes. Oui, comme vous dites, les corneilles, mais un dortoir de corneilles où ils sont 1000, en fait, ils ne connaissent pas les 1000 dans le dortoir.
So, simplement, ils se sentent en sécurité du fait qu'il y a un extrêmement grand nombre. C'est donc, c'est à leur avantage, même s'ils n'entretiennent pas de liens sociaux.
C'est ça, forts. Mais il y a quand même un noyau là-dedans d'individus connus. Et donc, c'est ce noyau-là qui va faire appel à le stockage de l'information dans le cerveau. Donc, il y a une relation, une espèce de relation en U inversée où les groupes extrêmement élevés d'oiseaux semble pas être particulièrement sollicité pour le traitement de l'information sociale puis l'intelligence. Mais les groupes, mettons, les troupes, les petites troupes de mésanges divers, ils se connaissent, évidemment.
Ah oui,
ouais, donc, ouais.
Et puis, bon, là, on va peut-être tomber un petit peu plus dans l'anecdotique, mais est-ce qu'il y a une grande variation individuelle chez les oiseaux en termes d'intelligence au sein d'une même espèce? Est-ce que vous, vous avez été témoin dans, au fil de vos recherches d'individus qui vous ont marqué, vous dire, waouh, OK, ce pigeon-là, par exemple, a vraiment un comportement un peu à part?
Bien, quand on fait des tests d'intelligence, on a des échantillons. Mettons, on décide, on capture 30 pigeons ou on fait venir 30 pigeons capturés ailleurs. Et il y a toujours des individus qui ne réussissent pas. Mais ça, on ne sait pas pourquoi. Ça dépendant du test qu'on fait. Comme, par exemple, on a fait un test sur deux espèces à la Barbade. Le test, c'est le test de la corde. Donc, vous accrochez une corde après le perchoir, puis vous mettez de la nourriture au bout de la corde. Mm-hmm. Fait qu'évidemment, nous autres, on a deux mains. Fait qu'on tire avec une main. Ensuite, si tu fais juste lâcher après avoir tiré, ça retourne en bas.
Oui.
Donc, il faut que tu tires. Tu gardes dans ta main le bout que tu as tiré. Là, tu en tires un autre bout, tu le gardes dans ta main. Tu tires un autre bout, tu le gardes dans ta main. Comment tu fais ça quand tu as un bec puis deux pattes? Puis qu'il faut que tu prennes tes deux pattes pour rester sur le perchoir.
Ah oui, je ne sais pas.
Donc, ce n'est pas évident de réussir le test de la corde. Et on a testé des sporophiles, qui sont des espèces de petits pinsons de la Barbade, puis on a testé des kiskales de la Barbade. Et dans certains tests, le kiskal, comme l'enlèvement d'obstacles, les problèmes qu'on leur donne à résoudre avec un couvercle, le kiskal et ce sporophile de la Barbade-là sont également bons. Quand on leur a donné le test de la corde, presque tous les sporophiles l'ont réussi, puis deux kiskales sur 30 ont réussi. Alors, pourquoi ces deux-là? Pourquoi le kiskal est si bon dans des tests d'enlèvement d'obstacles puis il n'est pas capable de faire le test de la corde? Pourquoi il y en a deux qui ont réussi? C'est quoi qu'il y a ces deux-là? On le sait pas. Oh, le problème, quand on capture des oiseaux en nature puis qu'on les amène au laboratoire, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi leur expérience de vie.
Ah, effectivement, puis vous ne pouvez pas leur demander. Vous ne pouvez pas les asseoir sur un sofa, les coucher puis leur demander comment étaient vos parents.
C'est ça. Fait que quand on leur donne un test d'enlèvement d'obstacles, ça se peut que parmi les individus qu'on a capturés, il y a des spécialistes du pique-nique qui sont capables d'ouvrir les sachets, ouvrir les contenants en styrofoam qui contiennent des restants de nourriture. Le lundi matin, après une fin de semaine de pique-nique, il y a un parc juste à côté de notre station de recherche.
Ah oui.
Puis il y a des pique-niques toute la fin de semaine. Puis le lundi matin, je peux dire qu'il y a du kiskal dans les poubelles puis c'est table à pique-nique. Et donc, ceux qui ont cette expérience-là, qui sont capables d'ouvrir un sac à poubelle, ouvrir un sac à sandwich, ouvrir un styrofoam pour avoir un petit morceau de poulet frit dedans.
Ah oui.
C'est sûr que cette expérience-là, après ça, je l'attrape, puis je ne sais pas moi qui a eu cette expérience-là. Mais il est pas mal meilleur que les autres. Ça, c'est l'inconvénient. Donc, il y a des études qui comparent. Il y a des études qui sont faites aux États-Unis sur les mésanges, où ils prennent des mésanges d'Alaska puis des mésanges du Kansas. Et ils leur donnent une génération en laboratoire pour être sûr que l'effet de l'expérience au Kansas puis l'expérience en Alaska est effacé de leur comparaison.
Donc, on peut comparer la génétique directement.
On peut comparer la génétique et ils trouvent effectivement des différences assez fantastiques entre celles qui viennent de l'Alaska et celles qui viennent du Kansas. Parce qu'évidemment, les exigences du milieu sont très différentes. En Alaska, si tu ne caches pas correctement ta nourriture l'hiver et tu ne la retrouves pas facilement, tu es mort.
Ah oui,
au Kansas, t'es correct, c'est ça. Donc, la mémoire spatiale et certaines parties du cerveau sont génétiquement différentes chez ces deux. Et donc, lui, ces gens-là ont le bon contrôle qui est de s'arranger pour qu'il y ait une génération élevée en laboratoire pour faire la comparaison.
Monsieur Lefebvre, j'aurais pu continuer tout l'après-midi. C'est vraiment passionnant, mais on va devoir arrêter ça maintenant. Merci infiniment de nous avoir accueillis à la maison et d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Ça m'a fait plaisir.
C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je profite de ce micro pour vous inviter d'ores et déjà à la webconférence Bénéfices de Québec Oiseau qui aura lieu le 11 février prochain, donc le 11 février 2021. Donc, mettez la date à votre agenda, mettez tout de suite une bonne bouteille de vin au cellier, réservez votre plus belle chaise de bureau pour être avec nous le 11 février. Vous pouvez déjà vous inscrire et faire un don sur le site internet du regroupement, donc le Québec Oiseau avec un X.org, sous l'onglet « Événements et activités bénéfices ». Il y aura par ailleurs un encan en ligne avant l'événement et vous êtes invité à communiquer avec Québec Oiseau si jamais vous avez quelque chose à offrir qui pourrait être mis à l'encan. L'édition hivernale du magazine Québec Oiseau sera distribuée aux abonnés au cours de la troisième semaine du mois de novembre et sortira en kiosque au début de décembre. Ceux qui souhaitent s'abonner ou se réabonner doivent le faire au plus tard le vendredi 6 novembre 2020 pour recevoir ce numéro. Et donc, pour vous donner un petit peu, vous mettre l'eau à la bouche, la prochaine édition du magazine Québec Oiseau met particulièrement en vedette le Roselin pourpré, ce sympathique fringillidé qui a conquis le cœur des Québécois avec son doux ramage et la remarquable livrée framboise du mâle adulte. Par ailleurs, trois escapades hivernales fort différentes sont présentées aux lecteurs. Matane, le nord de Mont-Laurier, et pour ceux qui aiment un petit peu moins le froid, Cuba. Une invitation au voyage sans sortir de chez soi. Parmi les autres sujets, mentionnons entre autres la présentation de nouvelles trouvailles pour attirer les oiseaux dans sa cour, l'essai des jumelles NL Pure de Swarovski, les actualités, les observations saisonnières et même un conte de Noël illustré par le peintre animalier Ghislain Caron. À noter également que les gagnants des grands prix de la photo Québec Oiseau seront présentés dans ce numéro. Alors que la migration d'automne bat son plein, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes observations et on se retrouve le mois prochain.